savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéret, Sophie Torlotta.
Bonjour et bienvenue dans tous les cinémas du monde. Aujourd'hui, on vous parle documentaire africain avec le festival C'est tout Africa. C'est à Paris ce week-end au Reflet Médicis. Dans 20 minutes, nous recevrons sa programmatrice Marie-France Aubert ainsi que la réalisatrice camerounaise Rosine Bakam. Nous recevrons aussi un pilier des ateliers Varan, le cinéaste Boris Lojkine qui fait depuis 2 ans un travail formidable en Centrafrique. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
À l'affiche aussi de tous les cinémas du monde ce samedi, une palme d'or, Parasite de Bong Joon-ho, un film culte, La Cité de la Peur. Et on partira aussi à Bangui avec notre correspondante Charlotte Cossé. Et la première étape de notre tour du monde, Sophie, cette semaine, c'est la Russie.
Oui, on vous parlait la semaine dernière de Rocketman. Eh bien, figurez-vous que les cinéphiles russes ont droit à une copie tronquée.
Я слышу мелодию в голове, всю целиком, с нотами. Я должен освободить ее.
It's a little bit funny.
Так как тебя зовут?
Мое имя...
Реджи!
Реджинальд Дуайт.
Реджинальд?
Voilà, le biopic, un comédie musicale sur la ville d'Elton John sort cette semaine sur les écrans russes. Mais les journalistes ayant eu droit à une avant-première, et pour certains, donc certains avaient vu le film projeté hors compétition à Cannes, ont remarqué que le distributeur avait coupé les scènes d'amour entre Elton John et son manager, John Reed, ainsi que les séquences où on le voit prendre de la drogue. L'ONG Amnesty International dénonce un cas de censure, demande le rétablissement de la version originale du film, qui sera de toute façon en Russie interdit au moins de 18 ans. Elton John, le coproducteur du film sur sa vie, a réagi sur Twitter, dénonçant donc dans les coupes effectuées par le distributeur le triste reflet, je cite, du monde divisé dans lequel nous vivons encore et de la manière cruelle dont il accepte si peu l'amour entre deux personnes.
If you make yourself more than a man,
who are you?
And if they can't stop you, if you're the Batman.
Un nouveau visage pour Batman, Sophie.
Et oui, et du vampire de Twilight à l'homme chauve-souris, il n'y a qu'un battement d'aile pour Robert Pattinson, choisi donc pour incarner le super-héros de DC Comics dans un nouveau film réalisé par Matt Reeves. L'acteur britannique de 33 ans, qui a déjà tourné, on le rappelle, sous la direction de Cronenberg, Claire Denis ou James Gray, a quand même dû passer un essai pour être le Batman. Et évidemment, il a été choisi, il a décroché le rôle. Tournage prévu cet été pour une sortie annoncée dans 2 ans.
On part à Lausanne, en Suisse, pour saluer un grand nom de la cinéphilie, un immense passeur.
Oui, Freddy Buach, le créateur de la Cinémathèque suisse, est mort le 1er juin dernier, à l'âge de 94 ans.
L'histoire du cinéma est encore pas bien placée, probablement, surtout dans les universités, avec la sociologie, avec l'histoire du pays lui-même, avec l'armée qu'il y a dans ce pays, enfin, quels sont les rapports de ça? Le cinéma, c'est pas un machin tout seul.
Voilà, ça c'était Freddy Buach en janvier dernier, infatigable défenseur du 7e art comme un art majeur. Alors il était né en décembre 1924, soit moins de 30 ans après la première projection publique des Frères Lumière. Freddy Buach a découvert et fréquenté assidûment à la fin de la Seconde Guerre mondiale la Cinémathèque de Paris et Henri Langlois. Et du coup, un peu sur cette lancée, il crée la Cinémathèque suisse en 1950. Il y accueille d'ailleurs Eric von Stroheim pour l'inauguration. Et Buach devient un ardent défenseur du cinéma d'auteur, forgeant de solides amitiés avec Louis Buñuel, Jean-Luc Godard, l'Helvète de l'étape, ou Milos Forman. Dans le même temps, ce cinéphile helvète affûte sa plume en devenant aussi le premier véritable critique de cinéma suisse, analysant, décortiquant les œuvres. Il co-dirige le festival de Locarno à la fin des années 60. Il se bat contre toute forme de censure. Il vitupère contre l'évolution commerciale du cinéma, mais il aura fréquenté vraiment jusqu'au bout les salles obscures.
Voilà, Freddy Buach, disparu le 1er juin dernier à l'âge de 94 ans. La dernière étape de notre tour du monde, eh bien, nous partons en Centrafrique, Sophie, à Bangui, où se tient en ce moment même le Festival du film européen. C'est un reportage de notre correspondante Charlotte Cossé.
La salle de cinéma de l'Alliance française a été inaugurée il y a seulement quelques semaines. Dans cet espace climatisé qui sent encore la peinture fraîche, quelques amateurs et quelques curieux se sont réunis pour la projection du film Petit Paysan. À la sortie de la séance, Oumar est ravi.
Moi j'ai aimé le film. C'est une très bonne idée. Je suis très 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 content et j'encourage aussi les autres à venir participer.
Pendant un mois, 17 films sont projetés, 6 européens, 11 courts-métrages centrafricains. Olivier Collin, le directeur de l'Alliance française, est l'initiateur de ce projet.
Pour ne prendre que trois exemples, Petit Paysan, donc le film français, bah, c'est l'histoire d'un éleveur avec ses vaches et confronté à une maladie. La question qui se pose, c'est comment vivre avec cette épée Damoclès sur la tête. Donc ça, c'est un vrai problème autour de l'agriculture. Deuxième, c'est sur l'Espagne après Franco, ça veut dire la guerre civile. Donc comment est-ce qu'on renaît finalement d'un traumatisme important? Le film italien parle de la déforestation, parle des territoires et des minorités culturelles. Voilà quelques exemples, effectivement, qu'on a essayé de traiter, qui ont du sens, en tous les cas, en Centrafrique.
Une curiosité piquée, assure le ministre de la Communication, Ange-Maxime Kazaghi.
En réalité, vous avez pu attirer l'attention des Centrafricains. Ne serait-ce qu'en lisant quelques-uns des titres des films, en tant que Centrafricain. On dit ici, Mbinamo, ça parle tout de suite. Toi et moi, nous ensemble, ça dit quelque chose, ça donne envie de voir, ça donne envie d'y être. Bétilégué. Bétilégué, on a dit la rue, c'est-à-dire en plein sur la rue, au milieu de la rue. Alors qu'est-ce qu'on va nous dire là-bas? Qu'est-ce qu'on va voir? Ça donne un intérêt à y être. Et Waligara, les Waligara, ce sont nos femmes commerçantes. Alors, tout ça, c'est des thèmes intéressants. Bon, il y en a d'autres, je ne vais pas les dire tous. Iawali, nous, les femmes.
Alors que le pays peine à sortir du conflit, ce festival apporte une bouffée d'air frais. Des projections sont aussi organisées dans les quartiers, les provinces, ainsi que dans des camps de déplacés.
Voilà, c'était le Festival du film européen de Bangui. 22 films à découvrir jusqu'au 15 juin. C'était un reportage de notre correspondante Charlotte Cossé. Et puis à Bangui, on y reviendra dans quelques minutes avec Boris Lojkin pour parler des ateliers Varan en Centrafrique. 13 nouveaux films cette semaine, des ados aux prises avec le surnaturel. C'est un premier film suisse, Les Particules. À l'affiche aussi un film d'horreur, Ma, un film de super-héros, hein, celui de la semaine, X-Men, Dark Phoenix. Alain Cavalier en majesté dans Être vivant et le savoir. Il rend hommage à son ami, l'écrivaine Emmanuelle Bernheim, disparu voici 2 ans. Et puis, l'événement de la semaine est sans doute celui de l'année.
La Palme d'Or.
Revient à
voilà, sortie en France cette semaine de la Palme d'Or cannoise, hein, c'était il y a 2 semaines. Parasite de Bong Joon-ho, une comédie grinçante sur les inégalités sociales en Corée du Sud. Voilà, Parasite, c'est une comédie féroce, une arnaque montée par une famille de chômeurs misérables. Un jour, le fils trouve une place de répétiteur d'anglais dans une famille richissime. C'est la première étape d'un processus d'infiltration. Bientôt, la sœur se fait engager comme professeur de dessin. Le père devient le chauffeur du chef de famille. Et enfin, la mère se fait embaucher comme gouvernante. Alors, Parasite, c'est un film qu'on a adoré, ah oui. C'était notre palme d'élection.
C'était un peu la palme d'élection. Voilà, une des palmes d'élection, mais un peu le film qui fait consensus.
Ouais, c'est un film extraordinaire qui nous fait passer constamment du rire à l'angoisse, de l'horreur à la comédie sociale, en passant par le fantastique et bien d'autres genres.
Et puis c'est un film de colère.
Ouais, c'est un grand film politique où Bong Joon-ho nous décrit un pays coupé en deux. En haut, les milliardaires dans leur petite bulle dorée. En bas, les misérables. Et puis entre les deux, bien sûr, un mur infranchissable. Alors, que dire de Bong Joon-ho, c'est un surdoué, c'est un peu le Tarantino ou le Guillermo del Toro coréen, c'est-à-dire
ouais,
quelqu'un
c'est bien
qui arrive à faire des grands films populaires mais sans jamais céder à ses exigences formelles, et cette Palme d'Or qui est la première jamais accordée à un film sud-coréen le fait entrer dans l'histoire, puisque Parasite est sorti, hein, et c'était une immense sortie en Corée, plus de 1000 salles. Il promet déjà d'être un colossal succès en salle. En France aussi, je crois que c'est l'un des meilleurs démarrages de l'histoire du cinéma pour une Palme d'Or.
Ah bon?
Eh oui, donc on lui souhaite le meilleur. Quant à vous, Sophie, vous vouliez parler d'un film culte qui sort en copie restaurée 25 ans après sa sortie en salle.
Le Festival de Cannes, l'événement médiatique que le monde entier nous envie.
Alors vous allez être content parce que l'année dernière, c'est Nicoletta qui avait votre chambre.
Mais le monde du cinéma est parfois une jungle bien cruelle.
Voilà, vous avez peut-être reconnu, c'est une comédie familiale. C'est La Cité de la Peur d'Alain Berberian, La Cité de la Peur avec les nuls, hein, du temps où ils faisaient les beaux soirs de Canal+, avec leur humour absurde et scatologique. Alain Chabat, Chantal Lobby et Dominique Farrugia. À sa sortie en 1994, ce film marque toute une génération d'adolescents, de jeunes adultes.
La nôtre.
Hein. Voilà, exactement, qui connaissent évidemment par cœur les répliques cultes.
Vous voulez un whisky?
Ou juste un doigt.
Vous voulez pas un whisky d'abord ?
Voilà, cette comédie loufoque, hein. La Cité de la Peur repose sur une satire du monde du cinéma et surtout du Festival de Cannes. Il y a une attachée de presse, un garde du corps qui s'appelle Karamazov, hein, comme les frères, un serial killer qui assassine tous les projectionnistes du film de l'attachée de presse. Bref, c'est complètement délirant, loufoque. On s'amuse à reconnaître les parodies, hein, des blockbusters à la mode. À l'époque, le film attire 2 millions de spectateurs en salle. Voilà, 25 ans plus tard, il reste toujours aussi absurde, escabreux, savoureux, délirant. Et à Cannes, il a été projeté en version restaurée et on a pu voir Chabat et Darmon danser la carioca.
Sais-tu danser la carioca?
Non.
Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Pour la comprendre, suis bien mes pas.
Ce n'est pas un tango ou un cha-cha. Encore moins.
Voilà, la carioca de La Cité de la Peur qui restera le seul film en fait hein, des nuls, mais qui aura donc marqué l'histoire et que je vous encourage à aller découvrir ou redécouvrir en version 4K en salle.
Sophie, si je vous demande le point commun entre La Main au Collet, Les Vacances de Monsieur Hulot, Hiroshima mon amour, Le Père Noël est une ordure ou encore Léon de Luc Besson,
rien à voir, je ne sais pas.
Rien à voir. Et ben c'est une mémoire vivante du cinéma. Sylvette Baudreau, qui a exercé le métier de script girl auprès de Laurel et Hardy, Alfred Hitchcock, Alain René ou encore Roman Polanski, avec qui elle vient de terminer le nouveau Polanski, J'accuse, inspiré de l'affaire Dreyfus. Alors aujourd'hui, elle a 91 ans et elle participe en ce moment même à la Biennale des Arts de Nice, qui est consacrée cette année au cinéma. C'est là que Sébastien Gédor l'a rencontrée. Il lui a demandé de revenir hein, sur ce métier méconnu de script girl. Alors les Américains disaient continuity girl. En gros, c'est la personne qui est chargée de veiller, Sophie, à la cohérence de toutes les scènes du film. On écoute Sylvette Baudreau au micro de Sébastien Gédor.
Dans le cinéma, il faut bien dire qu'on ne tourne pas dans l'ordre que vous voyez. Hein ? Quand on est dans un décor, on tourne toutes les scènes qui se passent dans ce décor, celles du début du film, du milieu et de la fin. Puis après, dans un autre décor, le deuxième, le neuvième et la vingtième. Donc ça fait des tas de raccords différents. Mais quand vous voyez le film, vous avez l'impression que ça a été tourné dans la continuité. Non, c'est donc, on avait ce travail, c'est pour ça qu'on appelait Continuity Girl. Au départ, c'était secrétaire de plateau.
Alors ça peut paraître des détails, mais c'est extrêmement important pour un film, Sylvette Baudreau. Il faut veiller à la cohérence des costumes, à la cohérence des montres, à la cohérence des horloges, du décor, que personne ne passe dans le champ d'une scène à l'autre.
Et oui, bon, si on commence par tourner dans un décor qui est au milieu du film, il faut penser que le gars qui vient ouvrir la porte, où il était censé avoir acheté du pain, donc il faut qu'il ait le pain avec lui, ou qu'il s'est bagarré avec quelqu'un, donc il faut que son costume ne soit pas impeccable, ou qu'il était censé avoir perdu son chapeau, donc il ne faut pas qu'il vienne avec un chapeau, etc. Enfin, il y a des tas de séquences comme ça.
Alors j'imagine que votre métier de script, Sylvette Baudreau, a changé depuis que vous l'exercez. Vous avez expliqué notamment que le regard du spectateur avait aussi changé, c'est-à-dire que quelque chose que le spectateur n'aurait pas forcément toléré il y a quelques années parce qu'on était habitué à des histoires linéaires est plus accepté aujourd'hui parce qu'il y a des incohérences qui peuvent ressembler à des ellipses du récit.
Oui, maintenant il y a beaucoup plus d'ellipses. Maintenant, vous passez de la voiture, il conduit, et puis crac, vous le voyez sur le... sur le pas de la porte en train de sonner et de rentrer. Donc maintenant, en effet, les spectateurs acceptent beaucoup plus facilement des ellipses énormes, oui.
Et votre premier film, c'était un Laurel et Hardy, Atolka, c'est bien ça?
Non, mon tout premier film, j'ai fait d'abord des stages. Manège avec Yves Allégret, Simone Signoret, Bernard Blier. Ensuite, Vals de Paris, de... Marcel Achard avec Yvonne Printemps et Pierre Freinet, et mon stage de montage sur Orphée de Cocteau. Ça, une fois que j'ai fait mes stages, j'ai eu ma carte professionnelle et ensuite j'ai pu travailler. J'ai eu la chance dans les années 50, 49-50, de parler l'anglais.
Et c'est pour ça que vous avez été choisi par Alfred Hitchcock pour La main au collet, donc qui a été tourné dans le sud de la France?
Oui, parce qu'à l'époque, il y a eu tous les films américains qui sont venus en France, parce que vous savez que pendant la guerre, on n'avait pas vu les films. Moi, j'ai eu la chance en Égypte d'avoir vu Blanche-Neige et les Sept Nains, Autant en emporte le vent, qui étaient les premiers films en couleur qui sont sortis en 38 en France. Vous savez en quelle année on les a vus, les premiers films en couleur?
Après les années 50?
Oui, 49-50 seulement.
Et il était comment, Alfred Hitchcock, Sylvette Baudreau? C'est vrai qu'il dirigeait depuis sa voiture, il avait l'habitude de diriger le tournage depuis sa voiture avec un cigare qui dépassait par la fenêtre.
Ça, il était dans sa voiture en train de fumer et de lire pendant qu'on réglait le plan. Mais enfin, il préparait le plan en sortant de la voiture quand même.
Votre anglais, le fait que vous parliez anglais dans les années 40, ça vous a aussi permis de tourner avec Alain René, Hiroshima mon amour. Vous êtes parti au Japon pour tourner avec lui parce qu'il fallait des scripts comme vous, au moins bilingues.
Et oui, parce qu'au départ, comme c'était une coproduction franco-japonaise, d'abord, les producteurs au départ voulaient que au Japon, ça se tourne en couleur, et en France, comme c'était les flashbacks à Nevers, en noir et blanc. René a dit non, je veux tout en noir et blanc, mais avec deux pellicules différentes et deux chefs opérateurs différents. Et ce qui fait que au Japon, c'était avec la Fuji, et en France, c'était avec la Kodak. Donc quand vous allez voir le film, essayez de voir la différence entre le noir et blanc japonais et le noir et blanc français.
Ça, vous, Sylvette Baudreau, vous voyez la différence entre ces deux noirs et blancs?
Bon, moi, c'est différent. Comme
vous l'avez vu de l'intérieur?
Je les ai vus, oui.
Mais votre œil ne vous ment jamais?
Bon, maintenant, avec l'âge, je porte des lunettes. Hein.
Sylvette Baudreau, micro de Sébastien Gédor, 91 printemps. Elle vient de terminer de travailler sur le nouveau film de Polanski. Restez avec nous dans quelques minutes. On retrouve nos trois invités pour parler documentaire africain. Et puis avant, on fait une petite pause musicale avec Aretha Franklin, la reine de la soul. Elle est au cœur de Amazing Grace, un documentaire qui est sorti cette semaine sur les écrans français. Thank you. Des récits d'apprentissage, des films de combat, des autoportraits, une ancienne sans-papiers devenue coiffeuse à Bruxelles, un voyage Paris-Dakar, un club de boxe à Libreville, au Burkina Faso, une usine textile à l'agonie, tuée par les institutions internationales. On pourra découvrir tous ces films ce week-end à Paris, au Reflet Médicis, grâce au festival Say to Africa, dont vous êtes la programmatrice, Marie-France Aubert. Bonjour.
Bonjour.
Alors, en ouverture de Say to Africa, était programmé un film, un long métrage camerounais, Chez Jolie Coiffure, un film de Rosine Bakam. Bonjour, Rosine.
Bonjour.
Et bonjour, Boris Lochkin.
Bonjour.
Vous êtes cinéaste, on vous avait reçu il y a quelques années pour Hope, votre premier film, s'il était sélectionné à Cannes, à la semaine de la critique, mais vous êtes aussi l'un des piliers des ateliers Varan en Centrafrique. Vous animez un atelier de formation au documentaire. C'est une aventure au long cours, hein, qui dure depuis...
C'est une aventure qui continue. On a commencé en 2017. On a fait un atelier dans lequel 10 jeunes réalisateurs ont fait 10 films, dont l'un est au festival Say to Africa. J'en suis très content. Et ça continue encore.
Il s'appelle comment ?
Le film s'appelle Mbinamo de Rafiki Fariala.
Un des jeunes cinéastes que vous avez suivi dans les ateliers.
C'est un jeune cinéaste, il avait 19 ans à l'époque, donc tout jeune, tout fou, plein de talents, plein d'envies diverses.
Les jeunes que vous recevez, il y en a très peu déjà. Ils ont quel profil ?
Aucun profil, tous les profils. C'est comme on travaille dans un pays où il n'y a pas d'école de cinéma, où il n'y a pas de carrière de cinéma, donc on a fait appel à des gens qui venaient de toutes parts. On a vraiment lancé un appel d'offres tous horizons avec l'Alliance française, qui est notre partenaire dans cette aventure. Et on a reçu 150 candidatures de gens très divers. Et notre règle, ça a été de pas recruter les gens sur le CV, mais sur... je sais pas, s'il y avait quelque chose dans la manière dont ils se présentaient, dont ils décrivaient ce qui les entourait, dont ils regardaient la réalité autour d'eux, quelque chose qui nous accroche le regard et on se dit « Ah, là, il y a quelque chose d'intéressant ».
Vous, Rosine Bakam, vous avez quitté le Cameroun en 2007.
Oui.
Vous étiez très jeune.
J'avais 27 ans.
Vous aviez déjà commencé à faire de la télévision, je crois. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette grande école de cinéma bruxelloise qu'est l'ANSAS ?
Ben, j'avais envie de raconter des histoires au travers en travaillant en télévision. J'ai eu la possibilité de collaborer avec des équipes sud-africaines et de voyager dans le Cameroun et de voir le potentiel historique de mon pays. Et mais je savais que en télé, j'avais pas les capacités de raconter toutes ces histoires comme je le souhaitais. Et après 3 ans de travail en télé, j'ai voulu aller faire une école de cinéma parce qu'il n'y en avait pas au Cameroun.
Marie-France Aubert, vous êtes, je le disais, vous êtes l'instigatrice de ce festival, C'est tout Africa. C'est tout en Wolof, ça veut dire
ça veut dire regard d'Afrique, oui.
Et c'est vous me disiez tout à l'heure, hors micro, que vous aviez un parrain qui vous avait donné cette idée.
Oui, c'est Oasis Diop qui nous a aidé à trouver le titre. Et il nous a dit, voilà, il a cherché, et il nous a dit que c'est tout, c'était regard au sens de l'œil, mais aussi de la pensée qui en découle. Et donc c'était parfait pour nous, pour parler de cinéma.
Et vous montrez beaucoup de cinéastes, de jeunes cinéastes contemporains. Alors j'imagine que bien évidemment ça part d'une envie.
Tout à fait.
Mais est-ce que ça part pas aussi un peu d'un manque?
En fait, on s'est rendu compte au fil de nos visionnages, au fil de nos rencontres, etc., qu'il y avait une vraie émulation, ébullition de jeunesse chez les cinéastes africains. Et voilà, c'est des films en fait qu'on voit pas, qui sortent pas forcément.
Et par exemple, ce serait quoi la thématique, ou enfin, si je puis dire, la ligne rouge cette année?
Alors cette année, on a ce panorama contemporain, mais on a aussi un éclairage, un hommage au grand cinéaste documentariste sénégalais Samba Félix Ndiaye. Et on s'est rendu compte que entre les films de Samba Félix Ndiaye qu'on va montrer, mais aussi sa pensée, etc., il y a des choses qui se sont fait écho, notamment la vision, le regard sur le travail, et aussi une vision très politique, très engagée, une résistance qui est un peu commune à tous ces réalisateurs.
Alors justement, on va l'écouter Félix Samba Ndiaye, donc vous lisiez un grand documentariste sénégalais disparu en 2009, donc c'est sur RFI. Et c'est au micro de Baya Alouache.
La place du documentariste que moi j'aimerais avoir, c'est de dire exactement à un moment donné, comme sur Question à la Terre Natale ou comme Lettre à Saint-Or, à un moment donné, il y a quelque chose, comme je disais, qui m'empêche de vivre. Donc je me sers du cinéma pour communiquer simplement ça, ce malaise, ces questions, et ça peut être de l'art, ça peut être aussi simplement une envie de dire, simple.
Mais un cinéaste n'est pas un porte-étendard?
Il est dans l'acte de création, il y a quand même une sorte de résistance. Quand on veut parler au monde et que personne ne vous a donné un bonbon à la menthe ou une cuillère de miel et que vous gestionnez à dire, à vouloir dire, à vouloir témoigner, quelque part c'est un acte de résistance, c'est une manière de vivre aussi. C'est pas la peine d'aller devant, de manifester. Un film peut être un manifeste. Un bouquin peut l'être, un tableau aussi. Moi, je pense que la place du cinéaste, elle est là. Elle ne va pas changer la société. Elle va peut-être permettre à certaines personnes qui ont l'envie ou le plaisir ou le désir ou l'ouverture de comprendre le questionnement, mais qui, dans leurs actes au quotidien, sont accompagnés par ce discours-là ou cette vision-là. Les films nous accompagnent. Quand un film vous marque pour toute la vie, vous continuez à vous le porter.
Félix Samba Ndiaye au micro de Baya Alouache, vous lui consacrez une petite rétrospective cette année, Marie-France Aubert. C'est ça ce qu'il dit, c'est que le regard, c'est toujours une affaire de résistance.
Complètement.
Et surtout la réappropriation du regard.
Oui, c'est ça. Surtout que, justement, on en parlait avec Rosine tout à l'heure, Samba Félix Ndiaye, il a voulu créer une école aussi. En fait, c'est quelqu'un qui a été très important, mais pour une jeune génération, en tout cas d'Européens et de novices comme nous, on s'est rendu compte que parmi les cinéastes africains, c'était celui qui était un peu oublié. Donc, on a voulu lui accorder cet hommage et partager cette découverte qu'on a eue magnifique de ces films.
Et vous, Rosine Bakam, est-ce qu'il y a des cinéastes qui ont compté pour vous?
Il y a Sam Ben Ousmane. Pour moi, c'était révolutionnaire de voir Le Mandat. Quand j'ai vu Le Mandat pour la première fois, je pensais que c'était une femme qui filmait un homme de cette manière. Je pouvais pas penser que c'était un autre Africain, homme africain, qui filmait un autre homme africain de cette manière-là. Et c'était révolutionnaire pour moi. Et j'aime son travail de militantisme, parce que c'est très engagé. J'aime la manière dont il filme les femmes dans Imitaï, cette résistance par le silence et par une force silencieuse. Oui, c'est un cinéaste qui m'inspire beaucoup et qui inspire aussi ma manière de filmer et mon engagement.
Qu'est-ce qu'il a appris à la jeune cinéaste que vous êtes ?
Ben, il m'a appris à m'engager, à me positionner, à choisir mon camp tout simplement en tant que réalisatrice, en tant que réalisateur. Aujourd'hui, dans le monde actuel, on doit s'engager, on doit choisir son camp, d'où on filme et d'où on raconte les histoires.
Et vous, Boris Lojkine, quand ces jeunes, ces jeunes cinéastes, mais en fait, c'est plutôt des jeunes qui veulent faire du cinéma, ils n'ont pas forcément...
Oui, c'est des gens qui ont un désir de cinéma, mais pas d'expérience.
Est-ce qu'ils ont des références cinématographiques ?
Très, très, très peu, et je dirais quasiment aucune de cinéma africain.
Autre que Tarantino. Voilà,
c'est non, c'est-à-dire que c'est des gens qui connaissent le cinéma mondialisé, qui n'en connaissent pas forcément le meilleur, et qui connaissent souvent rien du cinéma africain. Donc ça fait partie des choses qu'on leur a montré, de leur montrer des films africains ou des documentaires africains, qui voient qu'il y a d'autres gens sur le continent qui font des films, c'est important.
Alors justement, on va écouter un extrait du film de l'une de vos étudiantes, Boris Lojkine. Elle s'appelle Leila Thiam, son film s'appelle Chambre numéro 1, et donc c'est le quotidien dans un hôpital à Bangui.
C'est un film qui se passe donc dans une chambre d'hôpital, la chambre numéro 1, c'est la chambre des femmes, il n'y a que des femmes, dans un service de traumatologie, donc
où la plupart des femmes ont eu des accidents
de taxi-moto. C'est presque tout ça qui les a amenés là. Et donc on pourrait dire qu'on est dans une situation très dramatique de femmes qui ont les jambes cassées dans tous les sens, qui sont très pauvres, qui ont souvent même pas de quoi payer les frais de l'hôpital, qui se demandent comment elles vont faire pour payer les petites choses que leur demande l'hôpital, que leur demandent les infirmiers, les docteurs, etc. Une sorte de condensé de la Centrafrique, c'est-à-dire que cette chambre des femmes va raconter tout le pays sous forme d'une sorte de précipité, comme ça, avec quelques figures qui émergent de femmes qui sont très drôles, qui sont l'une plus émouvante, l'autre plus drôle, l'autre plus forte en gueule, et c'est cette force des femmes qui transparaît dans le film.
Et vous intervenez à quel moment vous les guidez même à partir du sujet
Un petit peu tout du long, puisqu'on prend des gens qui n'ont aucune expérience du cinéma, qui ont du désir, c'est le principal.
Mais qui ont un talent fou.
Qui ont
souvent
une manière de regarder, et c'est ça le principal aussi. Et à partir de là, l'accompagnement se fait du début à la fin, c'est-à-dire que ça commence par des discussions sur le sujet, qu'est-ce qu'on a envie de filmer. Et c'est vrai que parfois on essaye d'écouter, mais on essaye aussi parfois d'orienter un peu, parce qu'on a un petit peu d'expérience, donc un petit peu d'instinct de ce qui va faire un film et ce qui a moins de chances de faire un film. Et puis ensuite, les gens partent filmer. Il part toujours en binôme, c'est-à-dire que celui qui réalise le film cadre son film et une autre personne du groupe va prendre le son pour lui ou pour elle. Et ils reviennent chaque jour avec donc leur rush. Et tous les rushs sont regardés par tout le monde, c'est-à-dire par l'ensemble des stagiaires et par les deux formateurs, parce qu'il y a en permanence deux formateurs. Et on commente les rushs et c'est dans ce commentaire des rushs où on voit toutes les erreurs qui ont été faites, c'est-à-dire les erreurs aussi bien techniques, c'est flou, c'est mal éclairé, surex, sous-ex, etc. Mais aussi des questions de regard, c'est-à-dire est-ce qu'on a regardé la bonne personne, est-ce qu'on a regardé au bon moment, est-ce que le plan est juste par rapport au regard qu'on porte sur cette scène. Voilà, et c'est à partir des questions très concrètes qui se posent dans une scène donnée, dans les rushs d'une séquence donnée, que toutes les questions du cinéma vont être sorties. C'est-à-dire que c'est une pédagogie entièrement pratique où dès le premier jour on tourne et où c'est à partir de l'analyse de ses propres rushs et des rushs des camarades, puisqu'ils sont 10 et que tout le monde regarde le processus de tout le monde, que toutes les questions de cinéma sortent. C'est-à-dire qu'on ne pose pas les questions de cinéma en préalable avant d'aller pratiquer. On pratique. Et au fur et à mesure de la pratique et de la fabrication de son film et de la fabrication des films des autres, toutes les questions du cinéma sortent et les questions les plus fondamentales.
Boris Lojkine, vous les avez sélectionnés comment, vos stagiaires ? En Centrafrique, c'est sur leur envie de cinéma?
On a lancé un appel d'offres, on a reçu des dossiers, on leur avait demandé d'écrire une page d'autobiographie, plutôt que de faire un CV, on préférait qu'ils se racontent, et une page de projet de film. Alors évidemment, on n'avait aucun projet de film qui ressemblait à un projet de film.
Mais par exemple, ce projet dans la chambre d'hôpital?
Ben, en fait, Leïla avait déjà, alors c'est une des rares parmi les 10 qu'on a sélectionnés, qui avait déjà, dès le début, l'idée de faire un film dans cet hôpital et au service de traumatologie. En revanche, le fait que le film se passe dans une seule chambre, la chambre des femmes, ça c'est un petit peu le résultat d'un processus de discussion, de trouver voilà qu'est-ce qui va donner l'unité à ce film.
On va écouter un extrait de votre film Rosine Bakam, donc qui faisait l'ouverture du festival C'est tout Africa. Ça s'appelle Chez Jolie Coiffure. Vous y filmez le quotidien d'une jeune femme camerounaise qui est la gérante d'un petit salon de coiffure à Bruxelles, et en fait au détour d'un plan on comprend qu'elle est sans papier, qu'elle a fait un long périple du Cameroun à Bruxelles, en passant par le Liban, la Syrie et l'Europe, pour arriver dans cette ville où donc elle exerce sans papier.
Attends, ce sont des agences, des Libanais qui vont chercher des femmes africaines. Les Libanais, chez eux, ils ont des agents, des bureaux. Mm-hmm. Tu vois. Mm-hmm. Mais au Cameroun, il n'y a pas de bureaux. Ce sont des trucs qui vont bouche-oreille. Mm-hmm. Ce qui veut dire que comme partout dans chaque pays, on trouve toujours les Noirs. C'est comme ça qu'ils entrent. Donc, paraît-il qu'ils ont commencé avec les filles éthiopiennes, philippiennes, ceux qui sont tout proches d'eux. Mm-hmm. Après, de fur et à mesure... Il voit des Noirs, il dit, il bouche oreille, si tu connais quelqu'un dans notre pays qui veut venir travailler, elle est logée, nourrie, on s'occupe du billet d'avion, on lui fait tout. C'est comme ça que ça grandit. Mmh. Quand une personne part, elle-même aussi, elle encourage d'autres, et c'est comme ça que ça part pays en pays, bouche oreille, c'est comme ça qu'ils font venir des filles. Je n'ai même plus l'argent, c'est là où je vends mon salon. La fille qui me donne le salon n'a pas la totalité, le reste, j'ai dit qu'elle reste donnée à ma famille. Là, je pars vivre le calvaire au Liban. Et si je n'étais même pas, si je n'avais même pas fait ça, c'est que j'ai même pas eu la possibilité d'arriver ici. Parce que c'est dans le quartier où j'étais allé habiter que j'ai rencontré des gars camerounais qui vivaient là-bas. J'ai demandé, les garçons, vous faites quoi au Liban? Parce qu'on sait que les filles viennent travailler, mais vous faites quoi? Ils avaient dit qu'il y avait un réseau au Cameroun pour passer, hein? Mais passant par le Liban.
Ce qu'on va comprendre, donc, Rosine Bakam, au détour de ce plan, c'est que cette femme, elle a une longue, longue histoire qui a été très difficile, puisqu'on ne l'entend pas, mais elle va expliquer, en fait, comment, au Liban, elle a été prise dans Esclave. Une sorte de réseau, c'est ça?
Mais, en fait, oui.
Elle a vendu son salon de coiffure au Cameroun pour financer son voyage.
Parce qu'elle avait une proposition, elle pensait que c'était une proposition de travail au Liban. C'est pas une vraie proposition de travail, parce que pendant 3 ans, elle a enfermé et elle travaille comme esclave pour une famille libanaise. Donc, c'est des recrutements qui se font en Afrique subsaharienne. Des filles vont au Liban travailler comme femme de ménage. Donc, pendant 3 ans, Sabine a été enfermée, oui.
On lui avait confisqué son passeport,
oui.
Dès son arrivée.
Oui. Et voilà. Et au bout de 3 ans, elle a trouvé un moyen de s'enfuir et de venir en Europe en traversant la Syrie, la Turquie, puis arriver en Grèce et après en Belgique.
Et comment vous avez fait sa connaissance? Est-ce que vous êtes au départ cliente du salon de coiffure? Parce qu'on sent qu'il y a une proximité. Quelquefois, Sabine s'adresse à vous. Vous êtes effectivement tout le temps dans ce salon. On est vraiment en huis clos. Oui. Comment vous l'avez connue? Comment vous avez gagné sa confiance aussi?
Je ne connaissais pas Sabine, mais ça faisait... L'école de cinéma que j'ai fait à Bruxelles se trouve juste à 100 mètres de la galerie. Donc pendant 5 ans, j'ai traversé cette galerie-là en me disant c'est une réalité que j'ai envie de questionner. Mais j'ai une amie qui vit près de cette galerie et qui connaissait Sabine et qui m'a mis en contact avec Sabine. C'est comme ça que je lui ai expliqué mon envie, mon projet. Elle a adhéré tout de suite et c'était parti pour un an de tournage.
C'est une galerie de salons de coiffure ou de commerce africain? Parce qu'il y a on voit, et c'est incroyable, puisque vous êtes dans le salon, mais on voit des groupes de touristes qui viennent. Mmh. À un moment, Sabine dit, voilà, on est au zoo. Mmh. Normalement, on paye quand on va au zoo. Quelle est cette galerie et ce lieu?
C'est une galerie où il y a des salons de coiffure et des commerces, des produits exotiques d'Afrique et d'ailleurs. C'est dans le guide de visiter Bruxelles, de passer par le par le matongué, sauf que voilà, c'est des gens derrière ces vitrines, c'est pas des objets, c'est pas des objets d'art, c'est des gens qui on est 60 ans en arrière avec l'exposition des
humains. Maisons humains.
Non. Donc voilà, et sauf qu'on est en 2019 et que personne ne questionne ça et que ça continue de se perpétuer.
C'est là qu'on comprend peut-être ce que vous disiez tout à l'heure, Rosine Bacam, quand vous parliez de choisir, quand vous disiez j'ai choisi mon camp, parce que on s'aperçoit, et c'est un peu une question que je vous pose aussi à tous les trois, que le documentaire, beaucoup plus que la fiction d'ailleurs, je pense, est un lieu de réappropriation du regard.
Tout à fait, surtout en tant que réalisatrice africaine et en fait des études en Europe. Il me le fallait parce que j'ai appris le cinéma européen et c'est vrai, il y a comme une colonisation du cinéma occidental sur les autres formes de cinéma et j'étais dans une école en Europe, une école internationale et j'ai vu un seul film africain de tout mon cursus. Donc voilà, il y a une colonisation de cette forme de cinéma-là et en tant que réalisatrice africaine, il fallait absolument que je trouve un moyen, moi, de filmer des gens qui me ressemblent et un moyen qui ne soit pas cette démarche occidentale qu'on apprend dans toutes ces écoles-là.
Le documentaire africain, j'imagine que vous trois, vous en voyez énormément. Est-ce qu'il va bien? Il y a plus d'écoles de cinéma, il y a plus d'ateliers, les ateliers Varan, par exemple, Boris Lochkine, il y en a beaucoup en Afrique subsaharienne.
Pas du tout. Les ateliers Varan, c'est une association en France qui, ensuite, quand ils arrivent à trouver de l'argent et quand il y a le désir de quelqu'un de le faire, parce que ça repose avant tout sur le désir et le volontariat d'une personne, font un atelier quelque part. Ils l'ont pas beaucoup fait en Afrique. C'est pour ça que la Centrafrique c'était important pour les ateliers Varan, c'était un petit peu le retour en Afrique qui a été le lieu de la naissance de Varan, parce qu'en fait Varan est né avec Jean Rouch à la fin des années 70, en 78 exactement, lorsque, au moment de l'indépendance du Mozambique, un attaché culturel français veut faire venir trois cinéastes français pour filmer l'indépendance du Mozambique. Et parmi les trois, il invite Rouch. Et Rouch arrive au Mozambique et dit « Mais ça n'a pas de sens, c'est l'indépendance du Mozambique, c'est pas moi qui vais faire le film. » La démarche, maintenant, ça va être au contraire d'essayer d'aider les Mozambicains à faire les films qu'ils ont envie de faire là-dessus. Et à la suite de quoi, en 1980, il a fondé les ateliers Varan. Et c'est cette démarche-là qui est au cœur de cette démarche de Varan, on peut dire. L'idée d'ateliers comme ce qu'on a fait en Centrafrique et comme ce que Varan a fait dans plein d'autres endroits du monde, c'est de rendre à des gens, c'est d'aller dans des pays où les gens ont peu l'occasion de se filmer eux-mêmes et où ils sont beaucoup filmés par des étrangers et de rendre à des populations la capacité, la possibilité de se filmer et de se raconter eux-mêmes de leur propre point de vue, de l'intérieur. Et en Centrafrique, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la Centrafrique, c'est un pays qui a été beaucoup filmé par les télés étrangères, notamment au moment de la crise. En 2013-2014, toutes les télés du monde débarquent en Centrafrique pour filmer l'horreur de ce qui se passe à Bangui et ailleurs. Et ce sont des reporters voilà, qui filment et qui repartent avec leurs images chez eux, qui filment assez mal généralement, et très de l'extérieur, avec leur point de vue d'étranger. Et là, c'est vrai que ce que je trouve extraordinaire dans ce qu'on a réussi à faire avec cet atelier, même très court, c'est que tout d'un coup, ces 10 jeunes qu'on a choisis, ils ont réalisé chacun un film sur quelque chose qu'ils avaient envie de filmer. Et chacun de ces films raconte un pan de la société centrafricaine. Et je crois que la Centrafrique n'a jamais été filmée comme elle a été filmée par ces jeunes-là. C'est-à-dire que les films racontent chacun un pan différent de la société centrafricaine. Donc Leïla raconte une chambre d'hôpital, Rafiki raconte un jeune couple dont la femme est enceinte, Elvis Ngaibino raconte l'histoire d'un jeune pharmacien sans diplôme, donc illégal, mais qui en même temps fait du bien dans son quartier, etc., etc. Donc chacun par un biais raconte quelque chose de la société centrafricaine. Et j'ai eu l'occasion de montrer ce film à certains reporters français qui avaient été en Centrafrique, et ils étaient estomaqués en fait par le résultat, se dire mais jamais on a filmé ça, jamais on a pu même imaginer filmer ça. Il y a que un local qui peut regarder son pays comme ça, regarder des gens qu'il connaît, des gens qui sont de son quartier, des gens qui sont de sa, voilà, des proches ou des gens à qui il est connecté d'une manière ou d'une autre. Par un, déjà les films sont en sango, ils sont pas en français, ils sont dans la langue locale. Et quand on les a projetés dans des, alors d'abord à l'Alliance française, mais ensuite quand on les a projetés dans des quartiers ou même en province, grâce à des dispositifs de cinéma itinérant, alors là c'est formidable parce que les gens, pour la première fois, voient un film en sango. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vu un film en sango. Bon, souvent, ils n'ont jamais vu de film, parce qu'on parle d'un pays très pauvre, où la culture est très peu développée. Mais jamais, ils n'ont vu un film dans leur propre langue. Et pour eux, c'est bouleversant.
Et bientôt, en Afrique, il pourrait y avoir d'autres ateliers Varan, où, si je comprends bien, la Centrafrique, c'était un peu votre volonté, à vous, votre envie, à vous, Boris?
Bah, il se trouve que moi, j'avais un projet de film, un film que je suis en train de finir maintenant, c'est la fin, maintenant, je suis en mixage, mais c'est ça qui m'a amené en Centrafrique d'abord. Je voulais raconter l'histoire de Camille Lepage, cette jeune photojournaliste française qui a été tuée en Centrafrique en mai 2014, et je suis allé pour la première fois donc en 2016 en Centrafrique en repérage pour écrire mon scénario, pour voir comment ça allait se passer là-bas, est-ce que j'allais pouvoir tourner là-bas. Et puis je me suis dit au départ, bon, mais je vais travailler plusieurs années dans ce pays, je vais être lié à ce pays pendant plusieurs années parce qu'un projet de fiction c'est long. Est-ce que je peux pas apporter quelque chose dans ce pays? Et oui, voilà, c'est-à-dire que cet atelier, mais tous les ateliers Varan se montrent comme ça, c'est que les ateliers Varan, ça repose toujours sur le désir d'abord de quelqu'un qui a un lien avec un pays, ou qui a un terrain, ou qui noue des liens avec un pays, et puis après qui va porter ce projet, et qui va chercher l'argent, parce que c'est quand même l'argent qui est le moteur de la chose.
Et du coup, ces films des ateliers Varan, vous nous avez donné très très envie de les voir, est-ce qu'on peut les voir sur Internet? Est-ce que...
Alors maintenant...
Dans les festivals?
Oui, alors certains ont bien tourné en festival, comme le film de Leïla Thiam, comme le film Rafiki Faryala, comme d'autres aussi. Et donc au début, on les a un petit peu gardés sous le coude pour leur laisser la possibilité de faire leur première dans un beau festival. Mais maintenant, ça y est, on lâche. Et donc, ils sont tous visibles sur le site des Ateliers Varan, où tous les anciens films de stagiaires Varan sont visibles.
Rendez-vous donc sur Internet, sur le site des Ateliers Varan. Et puis en attendant, eh bien, le festival C'est tout Africa, c'est ce week-end au Reflet Médicis à Paris. Donc ce soir, Marie-France Aubert, on peut voir Boxing Libreville. Et demain, on peut voir un film magnifique qu'on avait découvert au FESPACO il y a 4 ans. Ça s'appelle La sirène du Faso Fani.
Oui, tout à fait.
Et c'est un film magnifique, enfin je le dis à tous les auditeurs qui vivent à Paris, c'est un film magnifique qui n'est jamais sorti en salle. Merci à tous les trois, Rosine Bacam, Marie-France Aubert, Boris Lochkine.
Merci.
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 Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin
et Elisabeth Le Quéré. À la réalisation, Fanny Renard et Sophie Janin.
Bonne semaine à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour une émission spéciale. On part en Espagne avec Pedro Almodovar.
Tous les cinémas du monde.
Tous les cinémas du monde.
Géo.